Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité, par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales, et son complice Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Eric.
Comment vas-tu aujourd'hui Renaud pour cette 13e émission, en espérant que ça ne nous porte pas malheur?
Oui, écoute, ça a déjà été mieux, mais ça va quand même. Et toi Eric?
Bon, moi ça va très bien, voilà, les lycées ont repris leurs activités et je me retrouve donc à nouveau en présentiel devant les élèves dont j'ai la charge et finalement ça a des côtés assez plaisants de retrouver quand même quelques visages connus.
Très bien, bien. Je n'ai pas encore eu la chance de revoir des élèves, mais j'escompte bien que les choses se fassent dans les jours à venir.
Très bien. Alors Renaud, depuis la semaine dernière, nous sommes sur la question des inégalités devant l'emploi et nous avions parlé des discriminations faites aux femmes dans le domaine professionnel. Alors c'est pas directement lié à cette question, mais je voulais te faire écouter le fichier son que j'avais préparé pour toi la semaine dernière, et peut-être que ça pourra relancer un petit peu la machine sur laquelle nous étions embarqués. Qu'en penses-tu ?
Je suis tout ouïe, Eric.
Moi, ce qui me frappe d'abord le plus dans cette crise, c'est la violence des inégalités sociales face à la crise. C'est-à-dire que dans le confinement, on n'est évidemment pas tous égaux, on a des personnes dans des logements minuscules, et puis on a un problème, là, un peu plus directement économique, qui est sur la politique de compensation en termes de revenus. C'est-à-dire la politique de chômage partiel qui a été mise en place pour l'instant, je pense, est très insuffisante parce qu'on oublie beaucoup qu'on a énormément de travailleurs qui n'en bénéficient pas. Beaucoup de personnes qui sont sur des statuts précaires, d'intérimaires, qu'on voit dans la rue continuer de faire des livraisons à vélo, qui sont des personnes qui étaient en fin de CDD, par exemple, au début du confinement. Donc voilà, aujourd'hui, la vraie urgence, c'est d'abord essayer de faire face à ces inégalités extrêmement fortes face à la crise épidémique. Les mesures de chômage partiel restent insuffisantes parce que les entreprises, en particulier les petites entreprises, n'ont pas toujours les moyens d'avancer l'argent. C'est-à-dire là, actuellement, il faut avancer l'argent, on est pris en charge un certain nombre de semaines plus tard, c'est pas toujours aussi rapide que nécessaire. Et de façon plus générale, on se rend compte que notre système de transferts sociaux n'est pas aussi automatique et efficace qu'il devrait être. Il y a toute l'affaire des familles modestes qui ont perdu le bénéfice du tarif de cantine. Bon, c'est quelque chose qui, normalement, aurait dû tout de suite donner lieu à une compensation financière parce qu'on connaît les revenus des familles en question. Ces revenus ont été déclarés, avec les déclarations de revenus d'ailleurs, pour savoir le tarif de cantine. Donc, oui, quand il s'agit de faire payer des impôts, tout est automatique directement sur le bulletin de salaire. Et puis là, pour verser un transfert, les choses sont beaucoup plus compliquées. On a finalement mis en place une mesure sur les familles modestes, mais qui ne compense même pas la perte sur le tarif de cantine. Alors, donc voilà, on a beaucoup de progrès à faire.
Voilà, Renaud. Alors, je n'ai qu'une question. Pourrais-tu me dire qui est l'auteur de cette déclaration ?
Ce doit être Thomas Piketty, si je ne m'abuse.
Ah non, mais là, vraiment, tu es trop fort. Parce que alors, je signale à nos auditeurs que ça n'est pas du tout téléphoné. Hein. Je n'avais pas donné à Renaud la réponse à cette question. Et il l'a deviné sans difficulté, apparemment.
Oui, alors, pour qui connaît un peu Thomas Piketty, il a un phrasé qui est relativement reconnaissable, quand même.
D'accord. Donc,
et puis, comme ce qu'il dit est en totale cohérence avec l'ensemble de ses propos, tout de suite, forcément, ça crée une suite d'indices qui aident.
D'accord, très bien. Bon, alors, Renaud, par contre, en quoi est-ce que toute cette question des inégalités face à la crise a un quelconque rapport avec le thème qu'on souhaite traiter aujourd'hui, qui est, lui, plus lié à l'inégalité face au salaire?
Pour répondre à ta question, je vais m'appuyer sur une anecdote, mais que je trouve tellement révélatrice, qui touche les États-Unis et pas la France. Mais on pourra, sans trop de problèmes, sans doute, extrapoler au cas français. Il y a peu de temps de cela, il y a eu un débat à la télé américaine entre une représentante trumpiste et un gouverneur de je ne sais plus quel état. Et donc cette représentante trumpiste s'en prend au gouverneur de l'état en question en mettant en avant le fait qu'il refuse de rouvrir les les casinos, et que pour une ville comme Las Vegas, c'est absolument dramatique que les casinos ne puissent pas rouvrir. Et elle explique, elle ajoute qu'elle a tous les jours au téléphone des patrons de casinos qui lui font part de leur détresse absolue par rapport à la situation. Donc elle s'en prend au gouverneur en disant « vous n'écoutez pas les Américains ». Et le gouverneur démocrate lui répond que s'il rouvrait les casinos, ce ne sont pas les patrons en question qui prendraient des risques, ce sont toutes les petites mains, hein, tous les salariés précaires. Et surtout, il ajoutait la chose suivante, il disait « vous savez, ces patrons en question, je suppose, pourront supporter 2 mois sans revenus. Par contre, tous les salariés précaires qui sont payés au lance-pierre, au cas par cas, par des contrats qui ne durent pas, eux, ne peuvent pas. » Donc, j'ai presque envie de vous dire, si je ne rouvre pas les casinos, c'est vraiment contraint et forcé, et c'est pas pour ne pas faire plaisir au patron. C'est avant tout parce que je mets la sécurité des salariés en question au-delà même de leurs revenus, alors que ce sont eux qui sont les plus en difficulté. Et la Trumpiste lui répond, vous parlez de mort et de maladie, et moi je vous parle de la vie. Voilà. Et il faut voir à la suite de ça le gros plan sur le gouverneur qui est désespéré, qui dit, mais c'est ce.
Oui, voilà. On peut comprendre pourquoi.
Bon. Voilà. Mais donc évidemment, quand on a de l'épargne, quand on a du patrimoine, quand on a des réserves, il est plus facile de passer un moment difficile que lorsque l'on n'a rien. Donc évidemment, les plus touchés sont les plus précaires. Et Thomas Piketty a entièrement raison, les plus précaires sont entre autres ceux qui n'ont pas accès au chômage partiel. Mmh. Alors il met aussi en avant l'exemple des familles qui parviennent à faire manger leurs enfants le midi parce que le tarif de la cantine est à 1 euro alors que chez eux ils peuvent pas faire manger leurs enfants pour 1 euro. Il a tout à fait raison. Alors on a sans doute un système social qui est très développé et qui n'est pas suffisamment réactif, c'est sans doute vrai. Alors on peut se glorifier d'avoir ce système et puis en même temps essayer de mettre en œuvre des mesures pour que la prochaine fois on ait des systèmes qui soient plus réactifs.
Perfectible donc.
Voilà. Alors, nous avons parlé la dernière fois des inégalités hommes-femmes et je voulais aujourd'hui faire juste un petit prolongement sur les inégalités ethniques puisque malheureusement l'actualité là aussi nous rattrape.
Exactement.
Hein, avec la mort de George Floyd et toutes les questions de discrimination ethnique qui vont derrière.
Que ça fait ressurgir, parce que finalement, rien de nouveau. Hein, la situation, en particulier aux États-Unis, n'a pas finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, beaucoup évolué depuis la fin des années 60. Aujourd'hui, on s'aperçoit que même en France, il y a des inégalités qui sont en relation avec la provenance ethnique des salariés.
Oui, alors, là où les choses sont très compliquées, comme tu le sais peut-être, Eric, c'est qu'en France, on ne fait pas officiellement de statistiques ethniques, contrairement aux États-Unis. Notre modèle d'intégration qui se veut un modèle assimilationniste, en tout cas, c'est comme ça depuis la Révolution française que l'on entend la manière dont nous accueillons des populations étrangères, assimilationniste au sens où on va considérer qu'à partir du moment où quelqu'un est français, eh bien, sa couleur de peau, sa taille, son sexe n'existe plus dans l'espace public, il est juste un citoyen comme un autre, et donc de par ce fait, on refuse les statistiques ethniques, ce qui fait qu'en France, on ne sait pas si les Noirs ont un salaire inférieur aux Blancs, on ne sait pas si les Noirs ont un taux de chômage plus élevé que les Blancs, là, on n'a pas toutes ces données-là.
D'accord, et est-ce que ces données on les a dans d'autres pays, par exemple ?
Oui, des pays comme les États-Unis, on a ce type de statistiques, puisque justement, on peut tout à fait officiellement demander à quelqu'un, dans une étude qui est faite officiellement, quelle est sa couleur de peau. Je signale qu'en France, justement, la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, interdit à des instituts nationaux, comme l'INSEE, par exemple, de coder dans un fichier ce type d'information. D'accord. Voilà. Donc on ne peut pas le savoir en France. Alors évidemment, on essaye de le savoir indirectement. Tu imagines bien. Il y a des sociologues et des économistes qui travaillent sur la question. Alors on le sait comment ? Alors par des micro-études. Alors par exemple, pour savoir si la couleur de peau a un impact sur la probabilité d'obtenir un entretien d'embauche, eh bien, on fait ce qu'on appelle du testing. Donc on envoie des CV à peu près équivalents, en tout cas qui se ressemblent quasiment mot pour mot aux mêmes entreprises au même moment, mais dans un cas on met une photo de quelqu'un de blanc et dans l'autre cas on met une photo sur le CV de quelqu'un de noir, mmh. et on voit si la probabilité de recevoir une réponse positive pour un entretien d'embauche est beaucoup plus forte pour les blancs que pour les noirs.
D'accord, alors, tout de suite, ce sont des statistiques à petite échelle.
Voilà, donc, mais qui pour autant, malgré tout, alors,
ils sont significatifs, hein, bien sûr.
Voilà, sont significatifs et montrent qu'il existe un effet. Alors, d'accord. Sur les salaires, là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué parce que on peut faire le même type de choses. On peut demander à des gens de nous donner leurs fiches de salaire. On va comparer des fiches de salaire de personnes noires avec des fiches de salaire de personnes blancs. Puis, on va essayer de voir s'il y a un écart. Mais là, la difficulté très grande, c'est de savoir d'où provient l'écart. Alors, si on veut faire des statistiques à peu près éclairante, il faut d'une part prendre des personnes qui ont exactement les mêmes diplômes, qui travaillent dans le même type d'entreprise, qui ont le même type d'ancienneté, qui ont la même ancienneté. Alors ça complique énormément la constitution de bases de données. Mmh. Et puis après, dans le salaire, il y a toujours une partie individuelle. Et finalement, si je vois qu'à qualification égale, ancienneté égale, etc., une personne de couleur, enfin dite de couleur noire, a un salaire inférieur à une personne dite de couleur blanche, c'est peut-être la conséquence d'une discrimination, mais il est extrêmement difficile de le démontrer. Parce qu'on pourrait toujours dire que la personne en question a une productivité plus faible ou est moins efficace. Alors, il faudrait des statistiques à beaucoup plus grande échelle, mais là, nous ne les avons pas.
D'accord.
Alors, malgré tout, Eric, comme je savais que tu allais me poser la question, et j'ai fait des recherches, et donc j'ai découvert en 2013... Donc en 2013 en France, des économistes français qui ont travaillé sur la question. Alors tu vas voir que le résultat ne va pas être très extrêmement parlant. Donc ça intéressera peut-être peu de gens, mais c'est une étude qui est parue en 2013 dans la Revue française d'économie par Romain Aberhart et Roland Ratelot. Ces auteurs en question ont essayé de comparer les salaires touchés par des Français dont les deux parents n'étaient pas immigrés, avec des salaires touchés par des Français dont au moins l'un des deux parents était immigré. D'accord. Et parmi cette deuxième catégorie, on distingue ceux qui venaient du Maghreb, ceux qui venaient de l'Afrique noire, mm-hmm. ceux qui venaient des pays asiatiques, ce qui permet quand même indirectement d'essayer de mesurer l'impact de la couleur de peau.
D'accord.
Alors, ce que montre cette étude, c'est que, d'une manière générale, ceux dont au moins l'un des parents est noir ou maghrébin, ce qui doit aussi se voir en partie sur leur propre physique, ont des salaires plus faibles. Mais si on annule toutes les autres déterminants des différences de salaire, en fait, l'écart est quasiment nul. Donc, il semblerait, d'après cette étude, qu'il y a des discriminations en fonction de la couleur de peau en France, mais qui portent plus sur la probabilité d'être embauché que, une fois qu'on est embauché, sur le salaire en tant que tel.
D'accord. D'accord.
Mais ce n'est qu'une étude qui date d'il y a 7 ans.
Mais Renaud, peut-être est-il plus difficile à un employeur de faire des discriminations sur le salaire lié à l'ethnie que cela n'est fait sur le sexe, parce que finalement, il y a quand même des conventions collectives et il n'y aurait aucun justificatif à rémunérer moins des salariés de la même entreprise pour le même travail. Alors qu'on l'a vu lors de la dernière émission, la discrimination sur le sexe, elle repose plus sur le caractère féminin de certains emplois qui, eux, sont sous-payés dans leur globalité.
Alors, c'est vrai, mais il n'empêche qu'il y a quand même des emplois aussi qui sont ethniquement plus marqués en France. Beaucoup d'emplois très précaires et beaucoup d'emplois très en bas de l'échelle sociale. Métier des boueurs, métier de sécurité, sont des métiers...
Le bâtiment
qui... Dans le bâtiment, voilà. Donc on pourrait quelque part aussi montrer qu'il y a un effet de ce type-là aussi concernant les discriminations ethniques. Mmh. En tout cas, pour clore la question, toujours est-il que cette période, elle nous rappelle qu'il y a deux grandes idées sur lesquelles on ne peut plus transiger dorénavant et sur lesquelles il ne va plus falloir accepter aucun compromis. C'est la question de la transition écologique, de laquelle nous reparlerons, et c'est la question des discriminations. Qu'elles soient genrées, qu'elles soient ethniques, ou qu'elles soient religieuses, ou qu'elles soient liées à l'orientation sexuelle, on ne peut plus accepter de vivre dans un pays, voire même dans un monde, hein, osons le mot, où ce type de déterminant peut avoir un impact sur notre positionnement social. Notre positionnement social ne doit pas dépendre de ça.
Alors, si on élargit un peu le débat, Renaud, est-ce que la première question que j'avais envie de te poser, mais je ne sais pas si tu en as la réponse, est-ce que cette crise du Covid-19, ou de la Covid-19, comme on a féminisé le terme, est-ce que cette crise de la Covid-19 va ouvrir de nouvelles perspectives, faire prendre conscience à la majorité de la population que justement on ne peut plus accepter ce type de discrimination, comme tu le dis, ou bien est-ce que tout simplement on va revenir à l'état initial de la question? Et une question qui est un petit peu accessoire à celle-ci, c'est est-ce que finalement les explosions de colère qui ont eu lieu suite à la mort de George Floyd ne sont pas elles aussi liées à cette crise de la Covid-19, dans le sens où ce serait un peu la démonstration du côté exacerbé de la réaction qu'on a par rapport à ce type de choses?
Tu imagines bien, Eric, que je ne vais pas te donner une réponse tranchée à cette double question. Sur la première partie de la question, à savoir est-ce que cette crise, elle nous a permis peut-être d'ouvrir encore un peu plus les yeux que nous les avions déjà auparavant ouverts et que le monde d'après ne sera plus comme avant. À cette question, il y a deux réponses possibles. La première, elle est politique. D'abord, si évolution il y a, ça passera peut-être par un engagement politique de l'État encore plus fort, avec des mesures antidiscriminatoires encore plus fortes. Et cela passera par nous, c'est-à-dire que c'est parce que nous allons élire le candidat qui portera avec le plus de force et le plus de conviction cette question que peut-être qu'enfin elle deviendra absolument centrale dans l'espace politique. Et la deuxième chose, mais là aussi c'est nous, la deuxième chose, c'est est-ce que les choses vont évoluer ? Le gouvernement ne peut pas tout. Quand dans une entreprise, on décide de ne pas prendre quelqu'un parce que c'est une femme, il est extrêmement difficile de démontrer qu'il y a discrimination. Donc l'État ne peut pas faire grand-chose contre ça. La seule chose qu'on peut espérer, c'est que ces discriminations disparaissent d'elles-mêmes parce que les gens prendront conscience d'eux-mêmes. Donc là-dessus, il n'y a qu'à espérer. Voilà. Il y a une deuxième partie de la question. C'est est-ce que George Floyd, c'est l'expression d'un renversement lié à la crise ? Eh bien, moi, j'ai envie de croire que oui.
D'accord.
Je n'en sais rien, mais j'ai envie de croire que oui. Alors, et j'ai envie de croire que plus rien ne sera jamais comme avant, au moins dans ces thèmes-là.
D'accord. Renaud, moi j'avais juste envie de rajouter que si on veut qu'il y ait vraiment un monde d'après cette crise, ça ne passera pas forcément que par les pouvoirs publics, c'est ce que tu as dit toi-même. Notre émission sort encore un peu de sa neutralité pour dire que plus que jamais, il faut une mobilisation des consciences pour faire émerger ce qu'on attend que cette crise fasse accoucher.
Moi je vais te dire, Eric, je crois en la génération actuelle. La génération qui vient, là, les jeunes d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus mobilisés sur toutes les questions écologiques et discriminatoires, de lutte contre les discriminations. Et je crois réellement qu'il va y avoir un élan générationnel et qu'il va essaimer dans toute la population. J'y crois très fortement.
Eh bien, écoute, Renaud, puisses-tu avoir raison. De quoi allons-nous parler la semaine prochaine, par contre ?
La semaine prochaine, nous parlerons d'une étude qui va très bientôt paraître sur les riches en France. Et ça va être l'occasion de faire la distinction entre riches et pauvres. Qu'est-ce que c'est qu'être riche en France ? Qui sont les riches ? Qu'est-ce que c'est qu'être pauvre ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qui sont les pauvres ? Et là, on va être au cœur de notre série d'émissions sur les inégalités. Donc on va donner des chiffres, et on va donner des taux, et on va donner des visages derrière les
D'accord.
chiffres.
Très bien. Eh bien écoute, je te dis donc à la prochaine fois.
À la prochaine fois, Eric, au revoir.
Au revoir. Sur Radio Valois-Mulsien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Eric Carlier et Renaud Chartois.